RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h06 et l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Je vous rappelle les principales infos sport du jour. Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga vont disputer les deux premiers simples demain pour le quart de finale de Coupe Davis Grande-Bretagne-France au Queen's à Londres. Gilles Simon opposé à James Ward et Joe Wilfried Tsonga contre Andy Murray. Richard Gasquet pourrait, lui, disputer le double samedi aux côtés de Nicolas Mahut. Pas de médaille pour les Français aujourd'hui au championnat du monde d'escrime à Moscou. C'est pas une grosse surprise. Nos fleurettistes ne faisaient pas partie des favoris. Demain, le sabre par équipe et le début des épreuves par équipe d'épée. À 20h45, France-Espagne, demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans. La Russie est déjà en finale, première qualifiée 4-0 contre la Grèce. À vos téléphones, à vos claviers, 3216, Twitter, hashtag RMC Live, ils sont là pour vous. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, rebonsoir à tous les deux.
Rebonsoir Virginie.
Thierry, tu es tout seul donc pour
non,
l'instant.
Je suis là.
Ah. J'allais dire du mal et puis non, voilà, je suis grillé.
On me perturbe, on me demande des passes.
Tu peux pas dire bonjour à la dame.
C'est la faute de Pierre-Yves Leroux, de pile.
De toute façon, c'est toujours la faute des autres.
La faute des autres, surtout avec le show.
Alors, après cette 12e étape et la victoire de Joaquim Rodriguez au plateau de Bay en solitaire, c'est déjà sa 2e victoire d'étape. La première fois qu'il gagne vraiment en montagne.
Oui.
Ouais. Oh, ah ben là, c'était un joli cœur, là, tous les deux. C'est impressionnant.
Oui, mais on attendait mutuellement qu'on réponde, donc ça peut faire un joli blanc pendant quelques minutes. Et un blanc en radio, c'est pas bon.
Allez, vas-y,
donc,
Thierry, embraye.
On va combler. Ben oui, c'est un puncher. Hein. On l'a vu. Aujourd'hui, il s'est glissé dans.
Est-ce qu'on l'attendait en haute montagne comme ça?
Oh, il est capable, hein. Oui, il a été meilleur grimpeur déjà, je crois, de la Vuelta. Il a gagné la Vuelta déjà, non, Lucho?
Rodriguez, bonne question.
Il a gagné la Vuelta.
Mm. Ouais, il a gagné la Vuelta, Rodriguez.
Donc, pour gagner la Vuelta, il faut quand même bien grimper. Et il grimpe bien, c'est le vrai puncher.
C'est un vrai grimpeur,
pour arriver dans un mur avec lui, c'est pas la peine d'essayer de disputer
le sprint. Il aurait pu être champion du monde, je sais plus, il y a 2-3 ans, je crois. Ils se sont fait la guerre avec Valverde dans le final et tout. Et je crois que c'est Valverde qui fait deuxième, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'est Valverde qui doit faire deuxième, il me semble.
Alors Valverde, justement, Valverde, il a essayé aujourd'hui. Hein, il a essayé comme d'autres, comme Quintana, par exemple. Mais les Sky tiennent largement le choc. Hein,
Tous les autres. Ils ont tous mis leur petite dose, leur petite
Et alors pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi?
Parce que les autres sont beaucoup trop forts. C'est la seule explication. Il y a une grosse différence. Et en plus, Froome a quand même deux super équipiers. En l'occurrence, Richie Porte et Thomas Gerrit. Et franchement, avec ces deux hommes, rien ne peut lui arriver. Hein. Franchement, je vois mal, même dans les Alpes, à moins que, on sait jamais. Hein. Un côté, mais la méforme peut les attraper aussi. Mais franchement, quand on voit comment ça se passe.
J'ai l'impression que tous les jours, on se dit, ah non, mais ils peuvent toujours avoir une méforme. Oui,
non,
c'est
mais
peut-être
là franchement, on l'a vu, hein, il y a deux ans, il a gagné le tour avec Richie Porte, et franchement, il n'y a pas eu trop de suspense hein, sur la fin, mais ils ont gardé le même cap. Et là, aujourd'hui, le deuxième, et du moins le troisième, le premier dangereux grimpeur, c'est Quintana, il est déjà à 3 minutes.
Il y a Alexandre qui nous appelle au 32-16, messieurs. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Virginie, bonsoir Lucho et bonsoir Thierry.
Bonsoir Alexandre.
Alors Alexandre, nous t'écoutons.
Je suis un grand amateur de vélo, hein. Je fais du vélo depuis que je suis tout petit. Et déjà, j'ai couru avec le papa de Romain, Romain Bardet. Donc un petit coucou à lui. Et puis c'est vrai qu'il m'a fait plaisir aujourd'hui, malgré qu'il ait fini derrière ses deux compagnons d'échappée. Mais sinon, moi, je voulais surtout en revenir par rapport aux coéquipiers de la Sky. Et c'est vrai que je suis assez surpris. Ça m'a rappelé certaines ères où des grands champions avaient de grands équipiers comme ça. Et en fait, les leaders, je suis assez surpris de voir des leaders qui n'arrivent pas à lâcher des équipiers. Vous en parliez tout à l'heure, je vous écoutais avec le débat avec Cyril notamment. Et c'est vrai que c'est assez surprenant que malgré des petits coups de... Honnêtement, je trouvais que c'était pas des attaques franches. c'est des petits coups, mais des petits coups comme ça, et les leaders, enfin les, voilà, il va y avoir lapsus, les équipiers de Froome, ils allaient au train, ils paniquaient pas, et ils arrivaient quand même à refaire, à boucher le trou, et malgré que tout le monde ait essayé, bon, c'était pas des attaques franches comme disait, mais c'est quand même surprenant que des leaders qui en plus ont roulé ces derniers jours, c'est pas comme s'ils étaient restés planqués et qui avaient essayé seulement aujourd'hui de sortir, non, non, ils ont roulé tout le temps, et en fait, ils sont restés, quand même, ils ont réussi à revenir tranquillement, et puis à finir l'étape tranquille. Enfin bon, moi j'ai déjà entendu vos avis, mais c'est vrai que moi ça me surprend quand même, et ça me fait penser un peu à Armstrong, qui avec ses lieutenants, pareil, laissait partir, et puis les autres roulaient au train derrière, et revenaient, et puis après Armstrong attaquait, tout le monde était derrière. Oui. Ça me rappelle un peu cette ère-là. Pas ce que vous en pensez.
Ah, ça, on l'a répété déjà X fois, mais bon, après, ça fait que ressembler. C'est franchement pour moi la copie conforme. Et qui est un gros leader, mais qui est des équipiers comme Richie Porte. Bon, Richie Porte, lui, il a toujours grimpé, c'est un excellent coureur, hein, mais c'est pas pour dénigrer Thomas Geraint, mais le voir monter l'école aussi vite que ça et arriver avec les super grimpeurs du Tour, franchement je suis étonné. Il a énormément progressé, tant mieux, et surtout tant mieux pour Froome, parce que avec ses deux acolytes, franchement
il peut faire l'Alpe d'Huez trois fois dans la journée.
Peut-être pas
j'avoue que
mais l'Alpe d'Huez, ils vont pas le détrôner comme ça, hein.
Il n'y en a pas beaucoup qui s'attendaient à avoir un tel scénario cette année sur le Tour, en voyant la domination de la Sky, Geraint Thomas qui est devant, Porte qui épaule aussi Froome, on ne s'attendait pas à ça quand même, on s'attendait à un autre scénario. Hein.
Mais après, pardon. En fait, après, on dit que les équipiers de Froome sont très forts, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'un autre côté, une déception de certains dont on attendait peut-être trop, quoi. Quintana, j'ai entendu son nom 50 000 fois avant le début du Tour, il avait déjà gagné, et en fait, peut-être que c'est lui aussi qui te déçoit.
Oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est la vitesse où ça monte, hein, aussi, hein. C'est ça. Le problème, c'est que au pied du col, on a vu les Tinkoff mettre un peu en route pour essayer de déceler le maillot jaune, mais en fait, ils ont fait que aggraver les choses pour Valverde, Quintana et Contador, parce que ensuite, les gars de la Sky ont pris la barre et ont augmenté encore d'un cran pour éjecter tout le monde, sauf on a vu que les leaders et puis nos petits Français s'accrocher aussi. Et franchement, bon, moi je dis chapeau, parce que là franchement je vois pas comment ils vont pouvoir détrôner Froome. En tous les cas, comme dit Lucho, là-dessus, c'est pas en attendant la dernière montée qu'ils vont arriver à faire quelque chose. Hein.
Alexandre, là, je t'ai coupé la parole. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Je voulais dire peut-être que les efforts pour les équipiers pourraient se payer en troisième semaine, parce qu'ils ont peut-être pas l'habitude justement de faire autant d'efforts sur trois semaines. C'est peut-être dans les Alpes que ça va se payer, les efforts pour
on
les
équipiers. On va voir la troisième semaine. Hein.
Et Richie Porte, il a toujours été aussi fort il y a deux ans. Hein. Il était dès la première étape des Pyrénées, et dans les Alpes, il l'était toujours.
Oui, mais bon, après, est-ce que Froome isolé sera peut-être aussi fort que ce qu'il est maintenant ? C'est pas sûr.
Mais comment l'isoler ?
Eh bien, justement, si Geraint Thomas paye les efforts qu'il a fait actuellement et qu'il les paye la semaine prochaine, d'autant plus qu'il va encore faire très chaud, et la chaleur sur les organismes, ça travaille surtout à long terme comme ça. Donc, honnêtement, dans les Alpes, ça se trouve, on n'aura peut-être pas le même Geraint Thomas qu'on a eu là. Et peut-être qu'il y aura que Richie Porte pour rouler, et si tout le monde attaque en même temps, Richie Porte pourra pas aller sur tout le monde. Donc, Froome, il sera bien obligé à un moment ou à un autre de faire les efforts lui-même pour revenir. Ça, à moins qu'il plante tout le monde, et puis après, terminé. Hein.
Ça, c'est le scénario qu'on espère.
Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir appelé le 32-16.
Merci
et à
vous.
Très bientôt.
Merci
sur Alexandre. L'antenne d'RMC. Alors, ces favoris, là, qui ont-ils attaqué, n'ont-ils pas attaqué? Comment devraient-ils faire pour que Froome ne soit plus un leader aussi dominateur? Hervé nous appelle au 32-16. Bonsoir, Hervé.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, bonsoir, les gars.
Avec un conseil pour ceux qui voudraient attaquer Froome.
Ouais, c'est pas un conseil, mais c'est un rêve. Disons que c'est un rêve quand j'ai vu comment l'étape s'est passée aujourd'hui. Moi, mon analyse, c'est un peu la même qu'Alexandre, c'est qu'ils ne peuvent pas être sur tous les fronts, la Sky. Et je pense qu'effectivement, Guérin Thomas va le payer, moi, pareil, dans la troisième semaine. Et moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, par exemple, quand les Sky sont devant dans la montée comme aujourd'hui, ils sont devant, pourquoi est-ce que Quintana et Valverde n'attaquent pas en même temps? Ils partent pas en même temps, et ou avec un Contador, ou avec un Nibali, mais qui partent en groupe, à deux ou trois, voire même à quatre, et faire une échappée à trois ou quatre devant, et se relayer, et obliger les Sky à rouler derrière, et à les fatiguer. Ils reviendront peut-être au train, mais pourquoi à chaque fois attaquer les uns après les autres, laisser revenir au train, on reste, on s'assoupit un peu, on réattaque doucement, parce que là, effectivement, aujourd'hui, c'était pas des pétards mouillés, mais enfin, c'est vrai que c'était pas des attaques franches. Alors, pourquoi ne pas partir deux derrière, à deux ou trois, et obliger les Sky à se dévoiler, obliger les Sky à vraiment forcer pour vraiment les fatiguer, pour obliger Guérin Thomas à lâcher le morceau, quoi.
Il faut réfléchir à des stratégies, parce qu'en puissance pure, ça marche pas, de toute façon.
Non, mais de toute façon, deux pétards mouillés ensemble, ça fait toujours un pétard mouillé, hein.
Non mais là vous avez vraiment décidé que le tour était terminé.
Mais hein, non mais s'ils attaquent ensemble, mais non, ils peuvent pas aller plus vite.
Le tour n'est pas terminé, mais il faut vraiment attendre les Alpes. C'est vrai que plus les jours passent, on est un petit peu pessimiste.
C'est sceptique. Hein,
oui. Ah
ouais,
bah oui, à 200 mètres des Champs-Élysées, on saura que c'est fait.
Du tour, alors il y a l'Alpe d'Huez dans le final, mais c'est pas le dernier jour qu'ils vont reprendre aux 3 minutes, donc il va falloir s'affoler un peu, quoi.
C'est l'autre chose, quand il y avait l'étape qu'il aurait dû avoir, pouvait être super sympa avec le Galibier et l'Alpe d'Huez derrière. Ouais. Là, la Croix de Fer, c'est un peu moins dur.
Ouais. Ouais.
Et ça couchera de rien du tout.
Mais
une montée franche, c'est tout, l'Alpe d'Huez.
Mais est-ce que les autres favoris, enfin ceux qu'on considérait comme des favoris avant le départ de ce Tour de France, peuvent discuter un peu entre eux et choisir de s'allier?
Si, ils peuvent s'inviter à dîner un soir et puis parler entre eux, de savoir comment ils peuvent faire pour détruire
aujourd'hui, ils ont allié leurs forces aussi, un petit peu, hein. Ils ont allié leurs forces pour...
Ouais, tu regardes, Contador, il a essayé sur 300 mètres, Nibali, il a fait pareil.
Après Valverde,
ça fait juste 250 mètres.
Après Valverde, il a bien essayé. Valverde, l'ancien, il a quand même mis deux beaux pétards.
Oui.
Quintana, moi je dis, il a attendu un petit peu pour contrer les attaques quand c'est revenu sur Valverde. Il aurait dû contrer de suite avant de. Tu vois, il a trop attendu. Tant pis, quitte à exploser, de toute façon.
De toute façon, ce que je veux dire, c'est que s'il y en a un qui part, un Valverde, un Quintana, à deux, comme dit Lucho, deux pétards mouillés, ça fait pas plus. Mais si, hein, deux pétards mouillés, ça fait plus. Ils sont à deux à relayer, à se mettre à la planche. Et de toute façon, ils vont plus vite à deux. Ils vont plus vite à deux que tout seuls.
Ouais, mais dans ces cas-là, faut qu'ils attaquent avant le dernier col.
Tout à fait.
Oui, d'accord. Alors là, je suis d'accord. Pour que leurs forces soient alliées et qu'ils puissent, je suis d'accord, mais bon, c'est se mettre en difficulté parce que avec les cowboys qu'ils ont la Sky, ils vont gérer derrière et bon, ça sera pas pire qu'aujourd'hui.
Tu sais,
qu'ils essaient de le faire dans la tête
quand tu arrives, quand il y a pas d'attaque et que tu arrives dans la dernière montée, déjà dans la tête Froome se sent beaucoup plus fort que les autres. Parce qu'ils se disent, s'ils n'ont pas attaqué dans l'avant-dernier col, c'est qu'ils sont peut-être pas capables de me lâcher ou ils sont pas en condition. Donc après, je vais dire, une montée après la dernière montée, après ça se fait vraiment au moral. Physiquement, je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais moralement, c'est le moral qui fait gagner et qui fait la différence aussi, hein, dans un final comme celui d'aujourd'hui. Et donc si tu attaques pas le moral des équipiers de Froome et même Froome lui-même avant la dernière montée. Alors dans ce cas-là, on n'a qu'à faire des courses de côte. Hein.
Ouais,
on n'a qu'à faire une course de côte, c'est une seule bosse, tu fais, tu les fais partir 5 km avant le pied, et puis voilà, ils règlent leur compte dans la montée, quoi. C'est tout.
C'est comme le principe des échappées dès le départ. Si on enlève ça, on fait une course de 10 km. Hein, c'est pareil. Non, mais je pense qu'ils ont tous pris un coup moral et qu'ils se sont tous aperçus que la Sky est très forte et que ça sera très difficile de la mettre en, dans le dur.
Merci beaucoup Hervé d'avoir appelé le 3216.
À très bientôt
sur l'antenne d'RMC. En gros, c'est ce qui revient aussi sur Twitter avec le hashtag RMC Live, hein, où Samir nous dit aussi, pour moi, c'est dès les premiers calls qu'il faut essayer d'éliminer les équipiers de Froome.
Oui.
Mais ça, c'est facile à dire, en fait.
Voilà. Non, c'est facile à dire. On a été coureurs, donc on sait comment ça s'est passé avant.
Oui, mais à mon avis, ils ont peur de se mettre en difficulté. Parce que franchement, s'ils attaquent de trop loin, l'ASCA est comme ils sont forts. Ils vont gérer derrière, gentiment, et ils vont revenir sur eux, et ils vont leur mettre la misère. Et eux, ils en sont conscients même de ça. Donc, à partir de là, comment veux-tu faire? Et c'est comme si, regarde, du temps d'Armstrong ou Armstrong, sans parler de bidouillage à côté, mais Armstrong était bien au-dessus des autres, et tu pouvais faire ce que tu voulais, et Armstrong était toujours aussi fort et était au-dessus des autres.
Ah mais je suis d'accord avec toi Thierry, à un moment donné
il faut essayer
d'ailleurs,
mais ils vont le faire.
Je crois que c'est
dans 10 ans, dans 15 ans, Virginie, qui va se rappeler du deuxième et du troisième du Tour de France?
Ah bah oui, c'est bientôt.
Les gens, le public se rappelle du vainqueur du
autant
Tour.
Autant être attaqué pour être premier.
Et attaquer le plus tôt possible. Et puis voilà, et après, au moins, t'as rien à regretter.
Je crois que c'est un peu ce que veut nous dire Eric aussi au 32-16. Bonsoir, Eric.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Bonsoir à tous. Salut, Lucho.
Salut.
Je suis entièrement d'accord sur ton analyse d'hier où tu disais que si personne va attaquer Froome et les Sky, il ne va rien se passer. Donc en fait, tout le monde avait coché l'étape d'aujourd'hui. Moi, j'étais content de ne pas bosser aujourd'hui. J'ai regardé l'étape à la télé. J'ai arrêté, je suis allé chez le coiffeur. Parce que franchement, personne n'attaque, quoi. Il n'y a personne qui veut le bouger. Comme tu dis, si on ne bouge pas l'équipe, ils sont encore neufs. Si on ne va pas les chercher, s'il n'y a pas des baroudeurs pendant le temps, comme toi tu le faisais, tout ça, on ne s'en sortira pas, quoi. Après, voilà, on peut pleurer. Voilà, bravo à Rodriguez, belle victoire, franchement.
Oui,
il y a rien à dire.
Mais quand
il passe Bardet, il lui fait un signe en lui disant viens me donner un coup de main. Ça se voit, Bardet lui dit non, je ne viens pas. C'est un peu con, quoi, parce que Bardet, il aurait pu le suivre, quoi. Je suis sûr. Et le Tour de France, pour moi, il est joué. Les Alpes ne vont rien changer. Voilà, après, t'as presque envie que... Ouais, moi, j'ai plus envie de regarder. T'as presque envie qu'il y en ait un qui attrape Froome, qui lui mette un grand coup d'épaule dans un virage, il tombe et...
Mais tu regardes,
on va pas faire ça.
Tu sais ce que tu fais, tu le regardes pas, tu nous écoutes. Comme ça, tu auras
Écoutez, je suis toujours en camion, je vous écoute.
Ah ouais.
Et ouais, et moi, j'étais sûr qu'aujourd'hui, ils allaient essayer de déglinguer les Sky, quoi, attaquer dans tous les sens, essayer de faire un petit peu une alliance pour les éliminer les uns après les autres. Et pour moi, je veux dire, franchement, Froome, bon, ben, c'est très bien, mais un mec comme Porte mérite plus de gagner le Tour de France que Froome, quoi, parce que c'est vraiment des équipiers modales, quoi.
Ah mais ça viendra.
Après, voilà,
je suis persuadé. Hein. Je suis persuadé que ça viendra.
Bah, Richie Porte quitte la Sky pour être leader l'année prochaine.
Oui, mais je sais. Mais quand tu vois les coups de main qu'il lui donne, quand même, ouais, voilà quoi.
Bah, c'est un équipier modèle. Mais non, mais le constat, Eric, c'est que franchement, ils ont le même constat que nous.
Mais c'est pas intéressant.
Eh ben, c'est pas intéressant. Mais le problème, c'est que la Froome et son équipe est bien au-dessus des autres. Alors à partir de là,
ils vont faire une alliance pour les taper.
Mais même avec une alliance, ils n'y arriveront pas. Mais même
regarde,
avec une alliance,
Valverde, il attaque pour reprendre une seconde, s'il te plaît. Il aurait mieux fait de rester derrière.
Et oui, mais bon, il a essayé au pied. Il peut pas prendre plus, hein.
Il peut pas
prendre plus. Moi, vous êtes gentil de dire oui.
Non, mais je sais pas. Moi, j'ai jamais fait de
non, mais
non plus. Mais
Lucho le dit aussi. Ouais, mais pourquoi il en a pas mis deux ou trois l'une derrière l'autre? Mais parce que une suffit. Et que après il a le couteau sous la gorge et qu'il peut que se rasseoir et est content de rester avec eux. C'est ça.
Mais tu regardes l'étape, c'est les Sky qui roulent derrière.
Mais oui.
C'est eux qui maintiennent l'écart, c'est eux qui font tout.
Ah bah c'est eux qui font.
Et pourquoi personne leur met des mines?
Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
Est-ce qu'on n'est pas surpris aussi, parce que j'ai l'impression on a déjà eu des Tours de France qui étaient dominés par une équipe comme ça, comme c'est le cas avec la Sky cette année, mais j'ai l'impression que là, ce qui agace tout le monde, c'est que personne ne l'avait prévu, ça. Donc, en fait, on se dit, oh là là, mais c'est pas vrai, mais Froome, en fait, il en est à ce niveau-là. Ben oui, Froome, il en est à ce niveau-là, alors qu'on comptait plus sur Quintana, c'est peut-être ça, non?
Mais c'est pas ça ce qui agace le monde, c'est que quand tu regardes à la télévision, quand tu suis à la radio en écoutant des commentaires d'RMC, moi je suis toujours dans mon camion, c'est énervant parce que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, il se passe rien, on les laisse partir devant, on revient, il n'y a pas d'attaque, il y a un coup de bordure, tout le monde tombe sauf Froome, tu sais pas comment ça se passe, on attendait les Français, ils sont pas là. Bon, ben c'est malheureux. Peut-être vaut mieux qu'ils soient pas là. Ça veut dire que peut-être ils boivent que de l'eau. Mais après, ouais, voilà quoi.
Non, je pense, après, j'entends beaucoup de déception de la part de
d'Américains,
mais on est déçu aussi.
Ça fait un moment que je suis le Tour de France et ouais, là, je suis déçu.
On est déçu aussi, mais regardez, l'air Indurain, l'air Armstrong, c'était quoi? C'était ça,
mais
exactement. Mais non, c'était la même chose.
Mais non,
quelque part.
T'avais des gars qui couraient devant.
T'avais les Capucci et tout qui attaquaient de loin, Bugno et tout ça.
Ouais,
t'avais du coursier, ça attaquait de loin, quoi. Je veux dire, attends, tu le sais bien, t'as fait le tour.
Oui, d'accord, mais bon.
Ça attaquait pas dans la Nicole, mais non, mais ça attaquait de tous les côtés quand même.
Oui, voilà, oui. Oui, c'était diffusé, oui. Comme tu disais,
ça attaquait loin, même si l'équipe d'Indurain, à un moment donné, elle revenait. Ça attaquait quand même de loin. Il y avait des prises de risque quand même.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Eric.
Au moins.
Voilà. Merci Eric d'avoir appelé le 32-16. Je voulais juste avoir un petit mot de votre part sur Romain Bardet qui s'est quand même sacrément rattrapé aujourd'hui, même si ça n'a pas fini aussi bien qu'il l'aurait voulu. Mais il a connu un début de tour difficile et lui, moralement, il a repris le dessus là. Hein.
Ah ben là oui, je suis bien content pour lui d'ailleurs parce que il le mérite. En plus c'est un super coureur. Il est très agréable à entendre aussi quand dans les interviews. C'est quelqu'un de très intelligent et qui a su un petit peu relever le défi de sa première semaine. Une première semaine très très difficile pour lui dans tout le sens du terme, hein, que ce soit physiquement, moralement, au niveau de sa santé, et qui a su remettre en route petit à petit. Qui n'a peut-être jamais perdu confiance, qui a dû douter certainement, mais qui s'est bien remis en selle aujourd'hui et qui a prouvé aujourd'hui qu'il était capable de faire de belles choses. Donc on attend beaucoup de Romain. Alors là, c'est vrai que les deux, trois prochaines étapes, c'est très bien pour Romain parce que bon, l'étape de demain, Muret-Rodez, après tu as Rodez Mende, je crois, voilà.
Mende,
et après,
c'est ça, oui.
Voilà, et après tu as Valence, donc tu as trois étapes où il peut encore se refaire une petite santé sympa, et avant d'aborder les Alpes dans de très très bonnes conditions. Et je pense qu'il va faire une très très belle fin de tour la dernière semaine. Je pense qu'elle va être très très bien pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez, Thierry, mais...
Je l'espère. Et puis il faut pas oublier Pinot aussi, parce que Pinot s'est retrouvé aussi. Il a accroché.
Mais là, Virginie, elle parle de Bardet, Thierry.
Oui, non, mais les Français, Bardet et Pinot, on espérait beaucoup, peut-être beaucoup trop. Avec la forme qu'ils avaient aujourd'hui, là on les retrouve, c'est gentil, c'est joli, et on espère beaucoup pour la semaine dans les Alpes, hein, c'est clair.
Voilà. Merci à tous les deux.
Un petit bonjour parce qu'il y a pas beaucoup de transferts, mais un petit bonjour à la caravane du Tour qui galère tous les jours, hein. Tu sais qu'ils font beaucoup de kilomètres tous les jours, que ce soit les équipes, tous ceux qui démontent, ceux qui remettent, les arrivées, les départs. C'est vachement important de le dire tous les ans, Virginie, parce que c'est des personnes qui dorment très peu la nuit pour monter le village départ, pour le redémonter, pour aller à l'arrivée, pour le remonter. Enfin, c'est des trucs infernales. Et puis puis aussi les petits doublés là qui sont en train de démonter les barrières, tu vois, qui sont toujours sur le terrain.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le Tour de France et dont on parle forcément moins que des coureurs. Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous demain 15h pour l'Intégral Tour.
Oui. Un petit bonjour à RBC. Je les ai vus dans l'avant-dernier call. Ils avaient mis Lucho Mobile, arrête-toi, je me suis arrêté.
Ah,
c'est
le
Ricard Beer Club. Alors salut, je vous embrasse très fort les gars.
Allez, continuez à arrêter la Lucho Mobile. Ne bougez pas, nous dans un instant. On est avec Jimmy Vico dans l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
20h32 sur RMC, l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h. Ensuite ce sera l'after avec Florent Gautreau. Mais là on est dans les starting blocks.
RMC, France Olympique.
Le meeting d'athlétisme de Monaco, c'est demain, Ligue de Diamants. Et notre invité est Jimmy Vico, co-recordman d'Europe du 100 mètres. Bonsoir Jimmy.
Bonsoir.
Quand vous entendez ça, là, comme ça, co-recordman d'Europe du 100 mètres, ça y est, vous êtes habitué ou vous faut encore une petite seconde pour réaliser?
Non, c'est bon, maintenant je suis habitué, mais bon. Maintenant, j'aimerais avoir ce propre record d'Europe, donc pourquoi pas demain ou sinon une prochaine fois.
Ah oui, vous n'avez pas envie de partager?
Non, pas du tout. Pour ça, les records, ça se partage pas.
Alors, Après ce temps record à Saint-Denis, vous avez à nouveau couru très vite au championnat de France, 9,92. Vous avez dit que vous étiez dans la forme de votre vie. Ça continue à l'entraînement? Vous continuez à sentir que là, en ce moment, tout va bien?
Écoutez, pour le moment, à l'entraînement, j'ai presque rien fait depuis que je suis rentré des France. Je me suis assez reposé parce que j'étais fatigué des quatre courses que j'ai faites. Donc maintenant, on verra demain si je suis vraiment en forme ou pas. Mais pour le moment, oui, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Mes ischios tiennent. J'ai rien à dire sur ma forme.
Alors demain, donc, c'est le meeting de Monaco. Sacrée concurrence là, hein, sur 100 mètres. Tyson Gay, Justin Gatlin. Alors Tyson Gay, il n'a même pas couru aussi vite que vous cette année. Justin Gatlin, lui, à chaque sortie, ça va très très vite. Ça vous fait quoi de vous mesurer à lui là?
J'espère que je vais suivre le wagon, quoi, parce que ça fait toujours plaisir de courir avec ces gars-là, parce qu'ils vont très vite. Donc ça peut vraiment me motiver, me réveiller à essayer de les suivre, quoi.
Et avant ce départ, vous vous dites que c'est jouable? Maintenant, vous êtes dans la même cour qu'eux?
Ah, mais je veux dire, à chaque course, c'est jouable. Donc, je n'ai pas à me dire que non, je vais perdre la course ou je vais faire deuxième ou troisième. Chaque course, c'est jouable. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, moi, je n'ai rien à dire dessus. Je continue. Je crois vraiment à mes chances. Donc, il n'y a pas de doute.
Alors là, vous allez très, très vite en ce moment. Si vous pouviez vous améliorer pour gagner un ou deux centièmes, ce serait sur quoi là en ce moment? Sur quoi vous voulez travailler particulièrement?
Le départ, je pense. J'ai encore des problèmes sur le départ. Faut que je travaille ça avec mon coach. Et d'ici un mois, je pense que ça devrait aller pour Pékin, quoi.
Et vous vous êtes donné de nouveaux objectifs depuis ce record?
Non, pas du tout. On continue la même lignée qu'on avait qu'on s'est dit avec Guy. Donc pour le moment, il n'y a rien qui change, quoi. Bon, même si le 86 m'a fait passer dans une autre, je veux dire, entre guillemets, catégorie. Donc, mais je continue ainsi m'aligner. Pour le moment, tous les objectifs ne sont pas atteints.
Tous les objectifs ne sont pas atteints et votre pic de forme, vous dites que vous l'avez en ce moment. Le but, c'est de le garder jusqu'à Pékin, ce pic de forme. Hein.
Le but, c'est d'essayer de le garder encore. Écoutez, là, j'ai encore travaillé après Londres, encore 3 semaines jusqu'à Pékin. Et après, je pense que là, ma vraie forme sera à Pékin, quoi, pour le 100 mètres. Quoi. Pour le commencement de 100 mètres.
Eh bien, on est content de savoir que vous n'êtes pas dans votre vraie forme maintenant, là, parce que c'est quand même impressionnant. Il paraît que vous travaillez avec une danseuse, Jimmy Vico. Pourquoi? Ça vous sert à quoi?
C'est plus pour trouver l'alignement, les étirements surtout, parce que je suis assez raide et je suis un grand feignant des étirements. Donc la danseuse m'aide à essayer de me retrouver, d'être plus souple. Voilà, quoi. Faire en sorte de ne pas prendre de risques les blessures, quoi.
Et vous sentez que c'est quelque chose qui fonctionne?
Écoutez, oui, je pense en ce moment ça marche très bien, donc ça a toujours marché. Enfin, l'année dernière c'était un peu compliqué, mais là, cette année, tout va très bien, niveau étirement, niveau souplesse, je suis vraiment dans ma meilleure forme, donc je vais continuer ainsi jusqu'à Pékin.
Vous avez changé de statut, Jimmy, est-ce que vous vous en rendez compte et comment vous en rendez compte?
Je sais pas du tout, écoutez, je sais pas du tout sur ça, donc non, sûr, ça fait plaisir de... Au moins, tout ce que je fais à l'entraînement, ça paye. Parce qu'à un moment, quand tu t'entraînes et que chaque année, tu te blesses 4 ou 5 fois, tu commences à avoir marre et tu te dis que tu sais bien ce que tu peux faire à l'entraînement et en compétition et ça vient pas. Donc, je pense que oui. Après, j'ai vu que les gens, ils me saluent, ils me remercient. Je sais pas, ils me félicitent à chaque fois. Donc, ça fait plaisir.
Est-ce qu'il y a des trucs drôles ou marquants qu'on vous a dit à propos de ce record et de votre course à Saint-Denis?
Non, ce qu'on me disait avant, c'était plus ça va, monsieur Vico? Tout va bien, t'as de blessure? Alors je leur dis oui, mais tout va très bien, il n'y a pas de blessure. Donc je sais plus, c'est cette phrase-là qui m'a marqué que les félicitations, quoi.
Et maintenant, vous savez qu'on attend la confirmation. Cette confirmation, on l'a eue en partie aux France. Là, Monaco, c'est avec un public qui va être notamment un public français. Vous savez qu'on vous attend, là. Quand vous allez être sur la ligne, il va y avoir Justin Gatlin et vous.
Bah, écoutez, moi... C'est plutôt moi qui m'attends que les autres, donc après, la pression des autres Français ne m'intéresse pas. Donc pour le moment, je me concentre sur moi-même et je veux dire, c'est pas grave si je me loupe ou si je me loupe pas, quoi. C'est un meeting, quoi, je veux dire, même si c'est important de courir en France, mais c'est quand même un meeting.
La pression, c'est un truc qui vous plaît, avec lequel vous aimez jouer?
Surtout, oui, surtout avec ces adversaires-là, donc c'est toujours plaisir de courir avec ces gars-là, ils vont très vite, donc... Pour moi, prouver que tu peux assimiler cette pression et on fait en sorte de faire une force, quoi.
Et puis le 100 mètres, c'est aussi, on le sait, hein, c'est avant le départ aussi que ça se joue, où tout le monde se jauge. Vous aimez bien ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour impressionner un peu l'adversaire avant le départ?
Bon, voilà, j'impressionne personne. Déjà, ce que j'essaie, c'est de me concentrer sur moi-même, sur ce que je vais faire techniquement. Parce que de toute façon, le 100 mètres, c'est court, donc le but, c'est vraiment penser techniquement. Après, je vais pas faire le frimeur, je veux dire, devant les autres adversaires. De toute façon, on est sur la même derrière. Quand on est même sur la ligne d'arrivée, c'est, je veux dire, tout le monde est à niveau égal, donc c'est le plus fort qui gagne, quoi. Donc j'ai pas à faire le frimeur entre guillemets, quoi.
Merci beaucoup Jimmy Vico d'avoir passé quelques minutes dans l'intégral tour, et à très bientôt sur RMC, et bonne chance pour demain, ce meeting de Monaco qu'on suivra en direct sur notre antenne.
Merci beaucoup.
Marie Zémangépé sera d'ailleurs là demain sur l'antenne d'RMC pour nous commenter ce meeting d'athlétisme de Monaco. C'est maintenant l'heure de retrouver Mohamed Bouafsi à Sousse en Tunisie. Salut Mohamed.
Salut Virginie.
Alors l'OM va jouer à Sousse un match de préparation contre l'Étoile du Sahel. Ça, ce sera samedi. On rappelle évidemment que Sousse, si ça nous dit quelque chose, c'est que c'est dans cette station balnéaire qu'un attentat a fait 38 morts le 26 juin. Un homme armé a tiré sur des touristes, sur la plage et à l'intérieur d'un hôtel. Mohamed, tu es arrivé en même temps que les Marseillais. L'ambiance doit être assez particulière à Sousse.
Alors Virginie, pour tout te dire, les Marseillais arrivent demain soir ici à Sousse. Moi, je suis arrivé il y a quelques minutes. Voilà, j'ai rejoint Sousse et l'hôtel où seront logés les Marseillais. Il faut savoir que c'est dans une ambiance particulière que va se jouer ce match, parce que on sait qu'il y avait eu, juste après cet attentat qui avait coûté la vie à 39 personnes, et bien des doutes sur ce match. Et bien vraiment, les dirigeants de Sousse voulaient absolument recevoir l'Olympique de Marseille ici à Sousse et organiser ce match. Pourquoi? Pour tout simplement redonner, on va dire, l'espoir aux gens qui habitent Sousse avec un match de football, leur redonner un peu aussi la vie. Ça a été les mots du maire de Sousse et de tous les dirigeants tunisiens. Ça sera le premier événement depuis, le premier grand événement à Sousse, en tout cas depuis les attentats qui ont eu lieu le 26 juin. Et je peux te dire que c'est quand même dans une ambiance particulière que va se jouer ce match, puisque je suis arrivé et Sousse vit vraiment dans un calme plat depuis cet attentat. À chaque rond-point, il y a la police touristique, des hommes armés de la police qui sont armés jusqu'aux dents avec des Kalachnikov. Et dans l'avion, tout à l'heure, alors que d'habitude les avions sont pleins de touristes, eh bien, il n'y avait quasiment aucun touriste dans l'avion, juste des Français d'origine tunisienne qui viennent fêter l'Aïd el-Fitr, qui va avoir lieu demain, l'une des plus grandes fêtes musulmanes, pour célébrer la fin du Ramadan. Mais il n'y avait pas de touristes, et vraiment les Tunisiens qui étaient dans l'avion, j'ai pu discuter avec certains d'entre eux, étaient attristés par cette situation et voulaient assister à ce match entre l'Olympique de Marseille et Sousse pour montrer aussi que la vie a repris à Sousse.
Et d'ailleurs, pour ce match, on s'attend à ce que les tribunes soient pleines quand même, puisque c'est le premier événement, tu l'as dit, d'ampleur depuis cet attentat.
Oui, on attend plus de 19 000 personnes. Le stade de Sousse peut accueillir 19 000 personnes, voilà, pour cet événement. Ça va être un événement exceptionnel. En tout cas, pour te dire, il y aura le président tunisien qui assistera au match. Bien sûr, le maire de Sousse, il y aura le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et tous les dirigeants de l'Olympique de Marseille, notamment le président de l'OM, Vincent Labrune. Vraiment, c'est beaucoup plus qu'un simple match de foot. Et c'est pour ça que les habitants de Sousse veulent venir assister à ce match. C'est pour montrer que, voilà, la vie a repris, et surtout qu'on peut aller fêter un événement, participer à une fête sans penser à un attentat, sans penser à un drame. En tout cas, c'est le message de tous les Tunisiens qui sont pressés de voir les joueurs de l'Olympique de Marseille. Dans l'avion, il y en avait certains d'entre eux qui disaient, voilà, nous, on est supporters de l'OM à la base, donc c'est encore plus une fierté de recevoir l'OM dans notre pays et dans notre ville, surtout après cet attentat. L'OM va participer à beaucoup plus qu'un simple match de foot, mais redonner le sourire à certains fans de foot tunisiens.
Alors Mohamed, on a bien compris que c'est un symbole aussi, ce match, mais pour l'OM, c'est quand même aussi un match de préparation. C'est le premier cette année, donc qu'est-ce qu'on en attend exactement à l'Olympique de Marseille?
Ben, on va découvrir des nouveaux visages. Déjà, Virginie, il y a les visages des nouveaux espoirs de l'Olympique de Marseille, les nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'OM, donc Bounassar, Georges Kevin Nkoudou, ou encore le deuxième gardien de l'Olympique de Marseille, Pelé. Tout simplement, le premier match de la préparation de l'Olympique de Marseille, un match très important, puisque Marcelo Bielsa vraiment a demandé à son effectif de fournir beaucoup plus d'efforts toute cette semaine pour préparer ce match. On le sait, l'OM a été le premier club à reprendre le 22 juin, il y a une semaine de préparation. préparation en Espagne, une semaine de préparation à la Commanderie, avant d'enfin attaquer ce match à Souche. Là, Marseille entre dans la dernière ligne droite de sa préparation avec ce match à Souche, ensuite une dizaine de jours et avec un stage qui aura lieu en Turquie avec trois matchs amicaux. On va découvrir des nouveaux joueurs de l'OM sur la pelouse de Souche samedi, donc Georges-Emile Nkoudou, Bounassar, et aussi préparer les premiers automatismes de l'Olympique de Marseille. Il faut savoir que l'OM a perdu beaucoup de joueurs, André Pierginiac, André Ayou, Gianelli Mboula, Dimitri Payet, Jérémy Morel. Marseille va devoir, dès samedi à Souche, préparer la future saison, et ça commence par découvrir aussi ses nouveaux partenaires lors d'un vrai match, lors d'une vraie opposition avec des adversaires, et préparer les premiers automatismes avec des joueurs comme Lucas Ocampos, Florian Thauvin, Miki Batshuayi ou encore Nkoudou, qui vont se découvrir un peu plus sur le terrain de Souche samedi.
Juste une petite question, Mohamed, parce que c'est une rumeur qu'on entend beaucoup là. Eduardo Vargas à l'OM, vrai ou faux?
Alors, tous les supporters de l'Olympique se posent la question de l'arrivée d'Eduardo Vargas.
Et si ça coupe comme ça, ils vont avoir encore un peu de suspense.
Comment?
Parce que ça coupait un peu, donc si comme ça, il y aura encore un peu plus de suspense.
En tout cas, c'est ce que nous affirme l'Olympique de Marseille. Il n'y a aucune discussion actuellement entre l'OM et Eduardo Vargas. Pour l'instant, le numéro 2 en attaque derrière Miki Batshuayi s'appelle Lucas Ocampos. Il n'y a pas de discussion entre l'OM et Vargas. Le message est clair de la part de l'Olympique de Marseille. On a voulu éteindre cette rumeur. L'année dernière, il intéressait l'Olympique de Marseille. Ce n'est plus le cas actuellement. L'OM se concentre absolument sur les deux milieux de terrain que l'OM veut très très vite recruter.
Merci beaucoup Mohamed Bouafsi, comme ça au moins c'est très clair au sujet d'Eduardo Vargas. En direct de Souche, Mohamed Bouafsi avec l'OM qui va y disputer son premier match de préparation samedi. Dans un instant, on va retrouver Pascal Perry, notre économiste, pour évoquer la pré-saison du PSG aux États-Unis et surtout le marché américain qui s'ouvre aux Parisiens. On va aussi suivre la demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans entre la France et l'Espagne. Le coup d'envoi, c'est dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
20h49 sur RMC, l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h. Ensuite ce sera l'after avec Florent Gautreau. L'Euro des moins de 19 ans, la France est en demi-finale face à l'Espagne. Ça c'est une belle affiche. Damien Gauziedo est avec moi en studio pour commenter ce match. Bonsoir Damien.
Salut Virginie.
Alors ça a commencé il y a quelques minutes maintenant. Oui. Comment ça se passe pour les Bleus?
Eh bien 4 minutes 12 de jeu exactement. Le ballon est dans les pieds des Espagnols. Pour l'instant pas grand chose à signaler, si ce n'est déjà un corner pour les jeunes Espagnols. C'est le 8e match entre les deux équipes en championnat d'Europe U19, pour l'instant bilan en faveur des Français, 4 victoires et 3 matchs nuls. Jamais l'Espagne n'a battu la France dans le temps réglementaire ou en prolongation, mais parce qu'il y a un mais, elle a été battue la France 2 fois en demi-finale par l'Espagne au tir au but, donc attention ce soir, un match serré sans doute, peut-être des prolongations et peut-être même donc des tirs au but. La France qui a terminé invaincue de sa phase de poule, ce qui n'est pas le cas de l'équipe d'Espagne, une victoire, un match nul, une défaite. Voilà le dernier match entre les deux équipes quand même, c'était en novembre dernier, c'était une victoire espagnole 5-1, donc les Français ont annoncé qu'ils allaient se méfier quand même. Leur entraîneur, Patrick Gonfalon, a dit que l'objectif était évidemment de se qualifier pour remporter cette compétition.
Et il y a déjà un qualifié pour cette finale, c'est la Russie qui a battu la Grèce 4-0. La Grèce qui joue pourtant chez elle, donc on connaîtra déjà l'adversaire éventuel de cette équipe de France si elle se qualifie pour la finale. Merci beaucoup Damien, on te retrouve tout au long de la soirée pour commenter ce match de l'Euro des moins de 19 ans. Pour l'instant, on va retrouver Pascal Perry, notre économiste. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Virginie.
Alors l'équipe du PSG est arrivée aux États-Unis, tournée américaine. Le Paris Saint-Germain avait une tournée en Chine il y a un an, l'année dernière. Là c'est les États-Unis, le but c'est clairement de trouver un nouveau marché.
Oui c'est ça, le Paris Saint-Germain s'est inscrit dans une vraie stratégie de marque à l'échelon mondial. L'an dernier la Chine, cette année les États-Unis. Alors les États-Unis, on a tendance à considérer en Europe que ce n'est pas toujours un territoire de football. Alors ça a beaucoup changé parce qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord la victoire des féminines. Le football aux États-Unis a d'abord été un sport féminin. Et puis sous la pression progressive de l'immigration latino aux États-Unis, et ils sont très nombreux les latinos aux États-Unis, la culture du football se propage, elle prospère sur ce territoire. C'est un territoire qui est riche. Et donc le Paris Saint-Germain, il déploie sa stratégie de marque avec un objectif d'abord sur le plan sportif, c'est-à-dire participer à une compétition dans laquelle il y a des noms prestigieux qui sont d'ailleurs appréciés du public américain. On regarde beaucoup le championnat de football anglais à la télévision américaine. Il y a Chelsea, il y a Manchester. Donc c'est associer son nom à des marques qui sont elles-mêmes prestigieuses, c'est le premier point. Et puis deuxième point, c'est développer le merchandising. Les Américains sont très friands de merchandising. Il y a quelques mois, j'ai visité le stade des Boston Revolution, New England Revolution, à Boston, à une trentaine de kilomètres de Boston. Ça n'est pas uniquement un stade, c'est un immense complexe commercial avec de nombreux magasins, des restaurants sur environ 50 hectares. Donc c'est immense, il y a des dizaines de milliers de places de parking. Et les Américains vont chercher là-bas, donc, les outils marketing, vont déployer sur place les outils marketing pour tirer de nouveaux revenus.
Mais d'ailleurs, tu parlais des clubs de première ligue, hein, on sait que Manchester United et Chelsea sont aussi en tournée américaine en ce moment. Pour leur stade, ils ont pris exemple sur les Américains pour faire la même chose au niveau européen et que ce soit pas simplement des stades, mais des lieux où les supporters sont aussi des consommateurs.
Oui, c'est ça. Alors, ce stade dont je parlais, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Boston, accueille tout à la fois les compétitions de football américain, les New England Patriots et aussi les New England Revolution, qui sont l'équipe de football, de soccer, qui participe à la conférence Est et qui obtient d'ailleurs de très bons résultats. On voit dans cette équipe d'anciennes gloires européennes, il y a en général entre 50 et 60 000 personnes au stade, hein, ça donne un peu à rêver, en tout cas ça donne une idée précise du succès populaire du football. Et donc dans ces complexes sportifs, c'est vrai qu'on vend du sport, mais ce sont aussi des lieux de rencontre. Je me rappelle avoir visité un immeuble dans lequel de très nombreuses sociétés avaient installé leur siège social. Donc ce sont devenus de vrais centres d'échange, des centres d'échange économique, et il y a probablement beaucoup à en prendre pour de ces exemples, hein, pour les clubs français. Alors pour le Parc des Princes, c'est compliqué parce que on sait que c'est un stade qui est fermé aujourd'hui, qui est contraint, même s'il y a des projets d'agrandissement. Mais pour tous les autres clubs français, je pense en particulier à Lyon qui a reproduit ce modèle, il y a probablement beaucoup de leçons à en tirer.
D'ailleurs, Lyon va jouer Trophée des champions contre le Paris Saint-Germain à Montréal à la fin du mois. Hein.
C'est ça. Alors, Montréal, bon, c'est un territoire francophone. À l'évidence, ça a là aussi un sens. Le football se développe progressivement en Amérique du Nord. C'est un immense marché. Hein. C'est un marché de 500 millions de consommateurs. Il y a le marché américain. Il y a celui du Mexique, alors qui est plus tourné vers l'Amérique du Sud, et puis le marché du Canada. Ce sont des marchés riches, et aujourd'hui, dans la mondialisation du football, les grands clubs européens vont chercher sur place non seulement des débouchés commerciaux, mais aussi parfois des capitaux. Manchester est allé à la bourse en Asie, notamment, pour rechercher des moyens supplémentaires, et pourrait le faire prochainement dans les bourses américaines. Donc il y a un vrai tournant là qui est en train de s'amorcer, et c'est plutôt de bonne politique pour le Paris Saint-Germain.
Mais ce qu'ont fait les clubs de première ligue avant le Paris Saint-Germain, c'est possible de rattraper un peu ce retard, si on peut dire, si c'est le but du Paris Saint-Germain, d'arriver derrière des clubs comme Manchester, derrière des clubs comme Chelsea qui ont déjà fait pas mal de travail aux États-Unis, et de vendre Paris notamment. J'imagine que de vendre la ville de Paris, ça peut aider à avoir des retombées.
C'est ça. Alors j'allais dire oui et non, parce que la ville de Paris est une marque, et Paris Saint-Germain est porteur du symbole de la Tour Eiffel. C'est une ville qui fait rêver. Les dirigeants du Paris Saint-Germain jouent beaucoup sur cette équation, hein, de l'attractivité de la ville de Paris. Donc ça, c'est un élément qui plaide plutôt en faveur du Paris Saint-Germain. J'allais dire non en même temps pour répondre à ta question, parce que les clubs anglais sont proches naturellement du marché américain, bon, parce qu'il y a la proximité de la langue, et aussi parce que depuis très longtemps, ces clubs ont labouré le marché américain, ils l'ont pénétré progressivement, ils y jouissent d'une image de marque qui est élevée, et on sait que dans le domaine de la réputation, de l'image, on dit souvent dans le marketing, hein, l'image, elle descend par l'ascenseur, elle remonte par l'escalier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, il faut beaucoup de temps pour asseoir des valeurs de marque, pour construire une stratégie de marque, et que ceux qui ont de l'avance, en général, la gardent. Mais Paris, malgré tout, a des arguments pour se faire connaître et apprécier.
Paris loves US, c'est comme ça, c'est avec ce slogan que le Paris Saint-Germain est arrivé à New York aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Perry, d'avoir passé quelques minutes avec nous. À très bientôt.
À bientôt, au plaisir. Au revoir Virginie.
Au revoir à tous. Et Florent Gautreau est arrivé pendant ce temps-là pour l'after. Et
salut Virginie.
On va suivre le match des U19, bien sûr, la demi-finale de l'Euro.
La demi-finale France-Espagne de l'Euro U19, on va suivre ça. Le débrief d'ailleurs dans l'after, bien entendu, dès le coup de sifflet final au programme. Le dossier Thiago Motta ce soir, il veut partir, le PSG veut le garder. Nous serons avec Alessandro Grandnesso qui a interviewé l'Italo-Brésilien, supporter parisien. On vous attend au 32-16. Toutes les infos transfert du jour, gros plan sur Montpellier et Caen. Le Mercato 2015 également décrypté par un agent de joueur. Et puis, on l'avait dit, 0-0 toujours entre la France et l'Espagne dans la demi-finale de l'Euro U19. On ne va rien rater de ce match. À tout de suite dans l'after.